Bonsoir à toutes et à toutes, bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez bien Transistor. Il est 20h passé de 31 minutes et vous êtes à l'écoute du journal radiophonique amplifié pour ce jeudi 14 février 2019 et toute l'équipe est là autour de moi, bien autour de moi parce qu'on n'a pas forcément assez de micros, toujours à pied d'œuvre pour vous retransmettre l'actualité mixée, égalisée, montée et évidemment amplifiée. À mes côtés, c'est également Mathilde. Bonsoir Mathilde.
Bonsoir Rémi.
Et qu'est-ce qu'on a au programme ce soir ?
Au programme, on a des brèves nationales et internationales avec des affaires LOL, Benalla, la Syrie, Haïti, mais aussi une revue de presse de Marie, un billet d'ici de Maé sur la crise méditerranéenne, un journal de la culture et une onde courte de toi, bien sûr Rémi, la chronique musicienne et le chemin de l'école avec Arthur.
Mais tout de suite, on passe donc au journal et le journal, ça sera avec toi Marie. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Alors commençons avec l'international et partons maintenant pour Haïti où ils sont encore des milliers à manifester contre la vie chère et la corruption et à réclamer la démission du président Jovenel Moïse. 78 détenus évadés de la prison d'Aquin, une ville du sud de l'île, des affrontements avec les forces de l'ordre et des échanges de tirs à Port-au-Prince, des voitures incendiées et des magasins pillés, la situation est encore loin de s'apaiser et les violences ont déjà fait 6 morts. Une colère que la Cour supérieure des comptes estime justifiée. Un rapport publié en décembre dernier a en effet dévoilé une gestion catastrophique des fonds prêtés depuis 2018 par le Venezuela et une quinzaine d'anciens ministres et hauts fonctionnaires ont été épinglés pour corruption, une réalité difficile à accepter pour l'île la plus pauvre des Caraïbes dans laquelle 60% de la population vit avec moins de 2$ par jour.
Et maintenant, on va parler de la Syrie, avec les forces arabo-kurdes qui luttent contre l'État islamique. Dans l'est de la Syrie, où les derniers combattants de l'État islamique font de la résistance, il reste quelques centaines d'hommes qui demeurent retranchés dans la ville de Baghouz et qui ralentissent la progression des forces arabo-kurdes. Celles-ci sont persuadées de leur victoire dans les prochains jours et la célébration est déjà en cours de préparation. Il reste pourtant encore à affronter les mines, les kamikazes et les voitures piégées qui empêchent pour l'instant la défaite totale de l'État islamique. La victoire sera d'autant plus délicate qu'il y a plus de civils dans la ville que ce qui était initialement estimé. Entre 1300 et 2000 personnes se sont déjà livrées aux forces arabo-kurdes.
Un point ensuite sur la situation en Amérique. En début de semaine et après le plus long shutdown de l'histoire des États-Unis, a été conclu entre républicains et démocrates un accord budgétaire prévoyant 1,3 milliard de dollars pour la construction, entre autres, de 90 km de nouvelles barrières à la frontière avec le Mexique. Une somme encore très loin des exigences de Trump, qui réclamait près de 6 milliards de dollars, et qui, s'il s'est dit très mécontent, a assuré continuer de se battre pour, je cite, « construire un beau mur, grand et solide ». En plus de la question du mur, ce sont aussi les élections de 2020 qui se profilent. Alors que Bernie Sanders, le milliardaire et ex-maire de New York Michael Bloomberg et l'ancien vice-président d'Obama Joe Biden sont pressentis pour être candidats à l'élection présidentielle de 2020, c'est la démocrate Elizabeth Warren qui a hier officialisé sa candidature aux primaires démocrates. Cette ancienne prof de droit à Harvard, surnommée Pocahontas par Trump et accusée de mettre en avant ses origines amérindiennes à des fins électorales, dénonce, je cite, « l'étranglement de la classe moyenne et fait du salaire minimum, de l'éducation et de la santé des points clés de sa campagne ». Une candidature qui provoque néanmoins remous et réactions nombreuses dans la presse américaine.
On parle de sous-marins à présent.
Et oui, pour finir, il a été signé mardi et est l'un des plus gros contrats jamais alloués par le gouvernement australien. Il s'agit d'un partenariat stratégique entre Canberra et la société française Naval Group qui prévoit la construction de 12 sous-marins pour 30 milliards d'euros. Salué par la ministre de la Défense Florence Parly, ce que les médias appellent le « contrat du siècle » devrait permettre à l'Australie de protéger ses intérêts dans la région Indo-Pacifique, théâtre d'affrontements à l'intensité croissante entre Chine, États-Unis et puissances régionales. Si la France a un temps traîné des pieds, en raison de la question des transferts de technologie, et que l'Australie craint que la marine ne soit en rupture capacitaire, le temps que les nouveaux sous-marins soient opérationnels, c'est-à-dire en 2038, le contrat scelle pour le Premier ministre australien un partenariat stratégique et devra occuper 500 personnes en France et créer en Australie plus de 2000 emplois.
Et on part maintenant pour Haïti ? Non, on part pas pour Haïti. Bon, alors on va parler de l'affaire Pénala.
Bah, pour le nez, on retourne à notre beau pays de France où un nouvel épisode du feuilleton agite l'univers du président de la République. En effet, Alexandre Benalla, mis en examen pour violence en bande et pour avoir utilisé un matériel policier contre l'autorisation du préfet, est passé bien sûr devant le Sénat et tout le tintouin. Mais il y a des nouvelles révélations par Mediapart. Certes, il était soutenu par le président devant le Sénat, mais on voit aussi que le personnage est très arrogant, utilise des procédés mafieux pour s'enrichir sur le dos du président. Mais Mediapart a encore révélé cette semaine que les contrats russes qu'il a passés sont au nom de la République française, et il a ainsi traité avec des oligarques russes, aussi bien pour enrichissement personnel que pour des affaires présidentielles. On a alors mensonge au Sénat, il a rompu la loi, on a des accusations de corruption, et maintenant on a quasiment une affaire d'État, puisqu'on voit l'apparition de manière mafieuse pour pouvoir traiter des contrats avec à l'Élysée.
Et maintenant, une trace de vie du côté du Conseil constitutionnel, Mathilde.
Et oui, hier ont été nommés les trois remplaçants de Lionel Jospin, Michel Carras et Jean-Jacques Hyest au Conseil constitutionnel. Les heureux élus sont l'ancien ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, choisi par Emmanuel Macron, François Pillet des Républicains, choisi par Gérard Lachey, et surtout Alain Juppé, choisi par Richard Ferrand. Alain Juppé qui, on le rappelle, était le mentor d'Édouard Philippe. Le gouvernement assure donc ses arrières en nommant des personnes qui lui sont proches et réduit ainsi le risque de censure qui pèserait sur ses lois. Le Conseil constitutionnel est censé être indépendant des pouvoirs publics puisqu'il a pour mission de s'assurer de la conformité de la loi avec la Constitution. Mais Emmanuel Macron semble bien décidé à ne pas s'encombrer de ce poids. On parle de l'affaire LOL maintenant, Maë.
Facebook, 2000 en quelques clics et crée une page, la Ligue du LOL. Vincent Glade, journaliste, y invite ses amis, la plupart issus de nombreuses rédactions parisiennes, du Monde, de la publicité ou de la communication. Le fait semble banal, si ce n'est que la page s'applique peu à peu à cyberharceler des personnes et principalement les collègues femmes de ces journalistes. Le harcèlement est insidieux, l'affaire doit attendre février 2019 pour éclater. À l'origine, Twitter et un commentaire incendiaire qui dénonce les agissements des membres de la Ligue du LOL. Suivent une série de témoignages, l'affaire est délicate cependant, en effet nombre des faits reprochés ne tombent pas sous le coup de la loi, le bad buzz est cependant suffisamment gros pour avoir abouti à la mise à pied de plusieurs journalistes de Libération, des Inrock ainsi que d'Uzbek Eric. Certains faits ont néanmoins été portés devant les tribunaux, affaire à suivre.
Et on parle réforme de la justice maintenant avec toi, Benoît.
Tout à fait. Le projet de loi de programmation de la justice 2018-2022 et de réforme pour la justice a suscité l'indignation de certaines associations féministes suite à son adoption en première lecture au Sénat cette semaine. En effet, la place accordée aux affaires de viol a conduit des activistes fémines à manifester devant le Sénat dénonçant un rétropédalage judiciaire. Alors qu'on observait déjà une correctionnalisation progressive des affaires de viol, cette nouvelle réforme prévoit en outre un passage devant un tribunal sans juré et bénéficiera seulement de quelques heures d'audience. Dans le même temps, les délais de saisie d'un juge d'instruction après dépôt de plainte passeraient de 6 à 3 mois, rendant très compliqué la constitution d'un dossier. On ne peut donc que s'indigner de cette mesure, faisant passer le viol pour un petit crime, voire un délit, et espérer que le monde associatif se saisisse au plus vite de cette affaire.
Merci, et on va finir avec des actes antisémites.
En effet, l'antisémitisme revient en France. C'est ce que disent les chiffres pour 2018. On voit une augmentation de 74% d'actes antisémites en France. Concrètement, on passe de 311 à 541 actes antisémites signalés à la police. Donc il pourrait y en avoir plus. Par exemple, on peut avoir la profanation d'un site en mémoire d'un jeune juif torturé en 2006, les croix gammées dans le 13e arrondissement de Paris sur le portrait de Simone Veil, ou de nombreux tags antisémites qui mettent en cause le président de la République traité de sale juif. Où on a par exemple les vitres d'un restaurant tagué de Juden et parfois brisé. Ce qui est alors à le relever, c'est que nous n'avons pas affaire au nouvel antisémitisme dont on nous promet la montée depuis 15 ans. La Palestine n'est mentionnée nulle part. Non, ce sont les vieux codes antisémites d'extrême droite. Nous pouvons dire que nous sommes en face des pires résurgences de la République française.
Eh bien ça, c'est une bonne façon de terminer un journal sur une note toujours joyeuse, mais effectivement... La situation est préoccupante et nous serons là coûte que coûte pour la porter dans vos oreilles sur Transistor. Et en parlant de situation préoccupante, on se tourne vers toi, Maï. À 20h40, tu reviens sur la crise méditerranéenne qui n'en finit toujours pas malgré le silence dans lequel elle se trouve plongée depuis quelques mois. C'est parti pour ton billet d'ici.